Chapitre 12 et dernier. Désespoir. Le soir, en arrivant au Moulin Rouge, Marquita monta plus allègrement que de coutume l'escalier qui conduisait à sa loge. Se croisant avec Nono Manette, qui descendait en scène, elle lui lança presque gaiement « Bonjour, Nono !» La grande vedette s'écria « On dirait que ça va mieux !» La danseuse répliquait « Vos conseils m'ont fait beaucoup de bien. J'en suis ravie et je ne souhaite qu'une chose, c'est que tu ne sois plus maintenant malheureuse. Vous avez mis en moi un peu d'espérance. Alors tout va bien, mais tu me raconteras cela tout à l'heure, pendant l'entracte, car je ne voudrais pas rater mon compte d'entrée. » Tandis que Nono vivement regagnait le plateau, Marquita gravit les marches et atteignit la loge dans laquelle la mère tarte aux fraises se tenait, racontant pour la première fois à l'habilleuse de Nono Manette, qui s'appelait tout simplement Madame Piété, comment elle avait failli, à 20 ans, devenir la favorite du prince de Galles, devenu ensuite le roi Édouard VII d'Angleterre. Marquita apparut dans la loge. À peine en avait-elle franchi le seuil qu'elle s'arrêta en poussant un cri d'admiration. Elle venait d'apercevoir, sur la table, une magnifique corbeille de roses multicolores dont les teintes variées s'harmonisaient délicieusement et dont les splendeurs se mélangeaient pour ne former qu'un seul parfum d'extase et de rêve. « Oh, qui m'a envoyé cela ?» demandait la bohémienne blonde à la mère tarte aux fraises qui l'avait rejointe. « Ben, je ne sais pas, mademoiselle, reprit Claire l'herbeilleuse, mais il y a une enveloppe attachée au ruban. Vous n'avez qu'à l'ouvrir, comme ça vous saurez. » Tout en décachetant le message, Marquita lisait. « Oh, en tout cas, c'est le cadeau d'un homme de goût. Je n'ai jamais vu d'aussi belle rose, ni de fleurs aussi artistement présentées. » Et, s'emparant de l'enveloppe qui contenait la carte, elle lut ceci. « Comte Willy Zermatt a l'honneur de présenter tous ses respectueux hommages à l'admirable artiste, à la femme adorable entre toutes qu'est Mademoiselle Marquita, et la prie instamment de bien vouloir le recevoir entre le premier et le second acte de la revue. » La danseuse se dit « Oh, il perd pas de temps, mais pourquoi les conduirais-je ? » Et, dominé par l'ascendant que Cagliostro avait pris sur son âme naturellement crédule et encore pétrie de toutes les superstitions que la vieille Tirsa y avait mises, elle songea « Si vraiment il doit être l'homme de ma vie, il ne sera jamais trop tôt pour le connaître. » Et après avoir enfermé la carte dans son sac, elle commença à se transformer en bohémienne. Lorsque son tour arriva de paraître en scène, il lui sembla que son cœur battait plus fort que de coutume. Elle pensait en effet que le comte Zermatt devait être dans la salle. Mais elle n'était pas de ces cabotines qui oublient parfois totalement le rôle qu'elles ont à jouer pour chercher si, parmi les loges, dans les baignoires ou dans les avant-scènes, elles ne reconnaissent pas l'ami du jour ou celui du lendemain. Une fois qu'elle était en face du public, elle oubliait tout pour se consacrer entièrement à son art, pour vivre le personnage qu'elle incarnait, interpréter, extérioriser les sentiments dont elle était animée, en un mot, se montrer exclusivement une artiste vibrante et sincère. Et c'était là tout le secret de son triomphe. Jamais encore, autant que ce soir-là, elle ne s'était surpassée. 5 fois, elle dut revenir saluer les spectateurs qui l'ovationnaient, et comme elle se heurta à Nono Manette, « Bravo, ma chérie, ça va même très bien. Oh, si tu continues ainsi, je tarderai pas à te révéler le nom de ton amoureux. » Marquita ne lui répondit pas. Ainsi qu'elle l'avait dit à Cagliostro, elle n'avait qu'une parole, mais lorsqu'elle remonta dans sa loge, elle ne put s'empêcher de sourire en pensant « Mon amoureux, je le connais, et je sais même le recevoir tout à l'heure. » Après avoir réintégré sa loge, au lieu de se déshabiller ainsi qu'elle en avait l'habitude, elle conserva son costume de bohémienne, qui lui allait d'ailleurs à merveille, et ajoutait encore à l'originalité de son charme et de sa beauté. Elle n'attendit pas très longtemps, 2 minutes environ, au bout desquelles la mère tarte aux fraises, qu'elle avait prié de rester dans le couloir, frappait à la porte. « Entrez !» fit la danseuse. L'habilleuse apparut, tenant une carte à la main. C'était celle de Willis Hermatt qu'elle remit à Marquita. Tandis que celle-ci la regardait, la mère tarte aux fraises lui murmurait à l'oreille « Vous en avez de la chance, c'est le plus bel homme que j'ai jamais vu !»« Faites entrer !» ordonnait la danseuse. L'habilleuse retourna le couloir et ramena le comte Zermatt, qui pénétra aussitôt dans la loge de l'artiste, tandis que, lentement, comme un regret, la mère tarte aux fraises refermait la porte. Marquita s'était levée pour accueillir son visiteur. Celui-ci, qui portait le frac avec une élégance qui n'appartenait qu'à lui, s'inclina respectueusement devant elle. Tout en lui offrant un siège, la bohémienne blonde l'examinait à la dérobée. Elle était de la vie de l'habilleuse. Jamais elle non plus ne s'était trouvée en face d'un aussi bel homme. Mais ce qui acheva de l'impressionner et n'allait pas tarder à la conquérir, ce fut l'expression de douceur, de bonté et de simplicité dont le fils du bagnard avait su se faire le plus dangereux des masques. Nous avons vu plus haut que, dressé à l'école paternelle, il savait être le plus habile des comédiens. Dans la scène qui va suivre, il allait se surpasser encore. « Mademoiselle, attaqua-t-il, de cette voix que l'on avait souvent et justement comparée au chant d'un violoncelle, je saurais vous dire à quel point je vous suis reconnaissant d'avoir consenti à accorder en ma faveur la consigne que vous aviez donnée de ne laisser pénétrer personne dans votre loge. Je ne reçois en effet personne, déclarait Marquita. Et si j'ai fait une exception pour vous, c'est que je savais que vous êtes un bon gentleman. Serait-il indiscret, mademoiselle, de vous demander quelle est la personne qui vous a renseigné d'une façon aussi flatteuse pour moi ? Ah non, je ne puis vous le dire, monsieur, déclarait Marquita, qu'il vous suffise pour l'instant de savoir que je trouve magnifiques ces belles roses que vous m'avez envoyées. On dirait que vous avez deviné quelles étaient mes fleurs préférées. Mademoiselle, je vous suis enchanté d'avoir si bien réussi, et puisqu'elles vous ont fait plaisir, je vous demanderai la permission de les remplacer souvent. Non, de temps en temps seulement. Et pourquoi pas tous les jours? Parce que ce serait me compromettre. Alors, telle n'est pas mon intention. J'en suis persuadé. Dupé par la distinction naturelle, l'attitude et le langage du beau Willy, Marquita reprenait, avec un aplomb que ne se connaissait pas et qui l'étonnait elle-même, « Bien que vous ayez un nom presque étranger, vous êtes certainement français. Oui, mademoiselle, je suis né et j'ai presque toujours vécu à Paris. Je suis même français de naissance. Mon père, qui descendait en ligne droite des Hermatt, qui ont régné jadis en Héberry, s'était fait naturaliser français. Vous avez encore vos parents ? Oh, hélas, non, mademoiselle. Et avec une teinte de mélancolie pleine de tact, il ajouta « Oh, je suis seul au monde !»« Comme moi !» laissa échapper la danseuse. « Oui, j'ai lu votre histoire dans les journaux, » reprenait le don Juan des grands bars. « Je l'ai trouvée très belle, très émouvante. Cependant, permettez-moi de vous dire que je ne trouve rien en vous de la race bohémienne, mais que vous présentez au contraire le type idéalement pur de l'anglo-saxonne.
« Oui, c'est ce qu'on m'a dit souvent, » déclarait Marquita. « D'ailleurs, cela n'aurait rien d'étonnant, que je fusse d'origine anglaise ou américaine, car je suis une enfant volée, et tout ce que j'ai pu surprendre en écoutant par les bohémiens qui m'avaient emmené lorsque j'avais pas encore l'âge de raison, c'est qu'ils m'avaient soi-disant trouvé dans le nord. « En tout cas, affirmait Zermatt, vous n'êtes ni hollandaise, ni suédoise, ni allemande. Et puis qu'importe d'ailleurs vos origines, puisque vous êtes la plus adorable. Et si je ne craignais pas de vous offusquer, je dirais... » Habilement, il se tut. De plus en plus conquise et même assez troublée, la bohémienne blonde invitait « Dites ?» Avec un frémissement de passion contenue, Willy murmurait « Et la plus adorée !» Marquita exhala un profond soupir. Était-ce parce que tout à coup, sa souffrance endormie venait subitement de se réveiller et que Jacques lui était apparu, obstacle infranchissable entre le comte Zermatt et elle ? Était-ce, au contraire, parce qu'elle subissait beaucoup plus rapidement qu'elle ne l'y pensait elle-même, le véritable enveloppement dont le donjon des grands bars cherchait à l'envelopper? C'était du moins ce que se demandait l'astucieux tacticien, qu'était en l'amour le fils de l'ex-baron Mirador. Il voulut s'en assurer prudemment, sans brusquerie, avec toute la discrétion que commandaient les circonstances, le tact qui était indispensable au succès de son entreprise. Feignant une vive contrariété, il reprenait « Pardonnez-moi, je vois bien, je vous ai blessé, mais je vous en prie, accordez-moi toute votre indulgence. Si vous avez la pensée que vous avez devant vous un homme entreprenant qui cherche simplement une agréable et facile conquête, « Chassez-la vite, bien vite, oh, je vous en supplie. Vous n'êtes pas seulement celle qu'on aime, mais aussi celle qu'on respecte. Il ne faut qu'il y ait là la moindre malentendue entre nous. Jamais, je vous le jure, je n'ai eu l'outrageante intention d'être votre ami. Mais mon plus ardent désir, que dis-je, la seule raison d'être de ma vie, est que vous soyez un jour ma femme. » Et sans permettre à la jolie danseuse de placer un seul mot, avec une volubilité, une véhémence, qu'une jeune fille aussi peu expérimentée que Marquita ne pouvait prendre que pour la plus chaleureuse et la plus sincère des éloquences, le conquérant professionnel poursuivait. « Ne croyez pas, si je veux l'espérer, ce rêve que je poursuis se réalise un jour, que je vous enlèverai à votre art. Que vous aimez tant, non, je n'aurais pas le droit, car ce serait un crime de priver le monde du véritable génie poétique qui est en vous. Mais au lieu de vous laisser continuer dans les music-halls une carrière qui s'annonce comme des plus belles que l'on ait jamais vues, je voudrais que vous eussiez votre théâtre à vous, théâtre d'où seraient bannies toutes les trivialités au milieu desquelles vous apparaissez tel un lys radieux qui aurait poussé dans la cour d'une ferme. Ma fortune me permet amplement d'exécuter rapidement ce projet qui ferait du théâtre Marquita le plus beau sanctuaire du monde entier. Ne dites pas surtout, je vous en conjure, que vous ne voulez pas. Ne me brisez pas le cœur par un refus définitif. Demandez-moi le temps de réfléchir et mon impatience s'accommodera de cette réponse, tant j'espère que, convaincu de la sincérité de mon immense amour, vous ne passerez pas à côté du bonheur que je veux vous égale pour nous deux et grand comme le monde même. » Lorsque Zermatt eut fini de parler, Marquita, étourdie, grisée, se disait « Ainsi, c'est le plus bel homme du monde qui me parle ainsi, et il me semble aussi le meilleur. Voilà donc les horizons dont parlait Cagliostro. Un théâtre à moi, un théâtre uniquement d'art. Oh, ce serait admirable !» Et d'une voix hésitante, elle reprit. Tout ce que vous venez de me dire, monsieur, ainsi que vous pouvez vous en rendre compte, m'a bouleversé à un point que je ne saurais vous dire. Et ainsi que je vous l'ai dit, j'ai besoin de réfléchir. Quand pourrais-je revenir? Interrogeait Zermatt en se composant une attitude anxieuse. Demain, répondit la danseuse en lui tendant la main. Il s'en empara et y posa sa bouche, dont la caresse discrètement voluptueuse fit courir un frisson dans les veines de Marquita. Puis, relevant la tête et enveloppant la pauvre petite d'un tel regard qu'elle manqua de défaillir et tomber dans ses bras, l'invincible séducteur fit simplement « Bien, je reviendrai demain, à la même heure. » Et il s'en fut, persuadé qu'avant 8 jours, suivant les instructions que lui avait données son père, il serait l'amant de la bohémienne blonde. Celle-ci demeura un instant figée sur place. Tout ce qui venait de lui arriver depuis 24 heures la laissait pantelante sous le choc d'événements aussi sensationnels qu'imprévus. Quel ange ou quel démon rôdait donc autour d'elle, pour qu'elle, qui la veille encore, pleurait son amour impossible, ce soir se sentait pénétrée mieux que par le rayonnement de l'espérance, c'est-à-dire par la flamme du bonheur. Incapable de se défendre, elle ne cherchait pas à se raccrocher au passé. Une sorte de force impérieuse semblait au contraire lui imposer de faire table rase de tout ce qui avait existé avant la visite du comte Zermatt. Le parfum des roses achevait de l'enivrer, et l'amplitude voulut la respirer, puis d'un geste impulsif, elle la mordit. Il lui sembla que c'était le sang d'une fleur qu'elle buvait et qui faisait pénétrer en elle la douceur exquise d'un parfum céleste. On frappait à la porte. Elle n'entendit pas. La porte s'entr'ouvrit tout de même. La mère tarte aux fraises avança la tête en disant « Le deuxième acte s'avance. Voulez-vous que je vous aide à vous déshabiller ?» Marquita fit un signe de tête affirmatif et la vieille aida la danseuse à se débarrasser de ses oripeaux. Lorsqu'elle n'eut plus qu'à se démaquiller, Marquita envoya la mère tarte aux fraises qui avait fini par l'agacer en lui posant toujours toutes les sortes de questions sur le beau monsieur qui venait de rester si longtemps avec elle. Question auxquelles d'ailleurs la bohémienne blonde opposa le mutisme le plus absolu. Mais elle ne devait pas rester seule longtemps. En effet, un quart d'heure après, comme Marquita était en train de donner un coup de peigne à ses jolis cheveux blonds naturellement ondulés, un coup de poing retentissant dans la porte, en même temps qu'une voix s'élevait dans le couloir. « C'est moi, Nono, on peut entrer ?» Marquita s'en fit ouvrir d'elle-même à la plus grande vedette, qu'elle vit aussitôt pénétrer dans sa loge. « Est-ce vrai ce qu'on raconte ?» s'écria la grande vedette. « Quoi donc ?» interrogeait la danseuse. « Que tu as reçu un type épatant, même que la mère tarte aux fraises est en train de brailler dans toute la maison, qu'elle n'a jamais vu un aussi bel homme. » Et, avisant la corbeille de roses, elle ajouta « Oh, les belles fleurs ! C'est lui qui t'a envoyé ces belles roses ?»« Ma chère Nono, » répliquait Marquita, « à vous, moins qu'à personne, je n'ai le droit de faire des cachotteries. » « Oui, il est exact que j'ai eu tout à l'heure la visite de quelqu'un. Oh, j'ignore s'il est le plus bel homme de la terre. En tout cas, vous devez le savoir aussi bien que moi. Pourquoi ? Mais parce que je ne me doute pas un seul instant que ce ne soit l'amoureux dont vous m'avez parlé hier. » « Oh, ça m'étonnerait, » dit Nono, en jetant un rapide coup d'œil vers la corbeille. « Non, non, ce doit être lui, comme je n'ai pas de secret pour vous. » « Je vais tout de suite vous dire son nom, le comte Willy Zermatt. »« Comte Willy Zermatt !» répéta la vedette du Moulin Rouge, en fronçant les sourcils. Oh, alors, mon petit, tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Et, s'il te plaît, ce zigoto-là, comment dites-vous? Oui, ce type-là, quoi. C'est-à-dire que... Allez, tiens, on ne m'en dit pas plus long sur ce zermatt. Le même, dans le temps, il m'a fait du plat, comme à toutes les poules. Oh, non, il n'en menait pas large, et vivait l'expédient. Il était déjà pourtant le chéri de ces dames, mais quelles dames! Des traînées de dancing quand il avait faim, des filles de bar quand il avait soif. Et puis un beau jour, il est devenu tout à coup fringant. Il a eu sa fameuse 60 des bijoux, et il s'est mis à fréquenter les endroits chics. On a raconté qu'il était entretenu par une poule de luxe, mais ce n'est pas vrai. Il avait fait la connaissance d'un certain baron Mirador, que nous appelions le roi des snobs, parce que toute la bande des abrutis dont je t'ai déjà parlé lui obéissait à l'heure et à la course, au doigt et à l'œil. Mais j'ai toujours pensé qu'il devait y avoir au moins un cadavre entre ces deux oiseaux-là. Le baron l'a lancé, l'a fait épouser la fille d'un banquier. Puis naturellement, au bout de 2 ans, il y a eu divorce. Et puis Toz Hermat s'est remarié avec une jeune fille de monde dont la mère s'était tuée pour lui. Oh, c'est du joli, n'est-ce pas? Alors, c'est pas fini. La fille est tombée folle. Elle est allée se noyer. Et tu as cru que c'était de ce type-là que je voulais te parler? Oh, mais tu n'y es pas, ma pauvre gosse. Alors quoi? Pas la peine de te dire. Maintenant que ce sale bonhomme a jeté jusqu'ici son venin, tu voudrais plus de celui qui aurait pu pourtant te rendre si heureuse. Alors, murmurait Marquita d'un air sombre, tu crois que Willy Zermatt est la plus grande crapule que j'ai jamais connue, achevait la grande vedette. Et donnant libre cours à son indignation, elle continua. Ah, celui-là, il ne pourra jamais se vanter de m'avoir eu. J'aurais mieux aimé me jeter à l'eau, car vois-tu, avec des misérables pareils, lorsqu'une femme se livre à eux, elle est perdue. Marquita venait d'observer. Le comte Zermatt ne m'a pas demandé d'être sa maîtresse, mais d'être sa femme. Parbleu, mais c'est toujours ainsi qu'il procède, martelait la grande vedette du Moulin Rouge. Il m'a dit qu'il voulait acheter un théâtre pour moi. Du boniment! Oh, ma gosse, je t'en supplie, ne te laisse pas engluer par ce type-là. Une fois qu'on a été pris, c'est fini. Non, rassurez-vous, non, non, je ne lui ai pas dit oui. Oui, mais tu ne lui as pas dit non. Je lui ai demandé à réfléchir. Mais c'est donc que tu envisages la possibilité d'une acceptation. Je ne sais pas. Oh, ça, par exemple, se révoltait Nono. Oh, j'en ai un coin de boucher. Comment, hier, tu parlais de te tuer parce que tu étais obligé de renoncer à Jacques Gervais. Et voilà qu'aujourd'hui, tu es sur le point de t'enticher, si ce n'est pas déjà fait, de ce comte Zermatt, dont hier tu ne soupçonnais même pas l'existence. Mais faut-il qu'il t'a fluide, cet animal-là? Ma chère Nono, reprenait la danseuse, je comprends que vous soyez surprise du changement qui s'est opéré si rapidement en moi. Mais il s'est passé depuis hier des événements qui, ainsi vous allez en juger vous-même, m'ont transformé en un point que je ne me reconnais plus moi-même. Qu'est-ce que tu me racontes là? Non, vous allez tout savoir. Je suis allé consulter Cagliostro. Cagliostro? Oui, le mage de la rue de Durnav, du Ranelagh. Ah oui, 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 j'y suis. Ce type qui vient on ne sait d'où et qui est en train d'affoler toutes les femmes du monde. Non, protestait Marquita, ne soyez pas injuste envers lui. C'est un homme extraordinaire. Non seulement il devine jusqu'à vos plus secrètes pensées, mais il sait percer tous les mystères, expliquer toutes les énigmes. Voyons, qu'est-ce qu'il t'a dit? Que j'étais une enfant volée. Bon, ça, c'est le cas de le dire, c'est pas sorcier. Continue. Que j'avais des origines royales. Rien que ça. Que j'aimais Jacques Gervais. Il a dit Jacques Gervais? Parfaitement. Oh, ça prouve que sa police est bien faite. Et après? Et que je devais renoncer à lui parce qu'il aimait sa femme et qu'il ne m'aimerait jamais. Tiens, tiens. Mais qu'il fallait que je me consolasse, car j'étais aimé par un homme digne de moi, par l'homme de ma vie. Bref, il m'a tout dit ce que vous m'avez dit. Mais je m'en aperçois bien. Sauf que vous ne m'aviez pas donné le nom de mon amoureux, et que lui me l'a révélé tout de suite. Seulement, ce n'est pas le même. Et je puis affirmer qu'il n'a rien de commun avec ce Willy, le donjon des grands bars, ainsi qu'on le nomme si bien. Il est peut-être moins beau, moins brillant, et surtout moins riche, mais celui-là, c'est un grand artiste, c'est un grand honnête homme, et il a même la discrétion de t'adorer en silence. Pourquoi? Parce qu'il a peur que tu le dédaignes, et il n'a pas tout à fait tort. Mais si, hier soir, vous m'aviez dit son nom, peut-être cela aurait-il changé bien des choses, posait la bohémienne blonde. Ah, tu crois? Scandait sa camarade. D'abord, reprenait Marquita, je ne serais pas allé chez Cagliostro. Au fait, qu'est-ce qui t'a donné cette idée de demander une consultation à ce sinistre farceur? Le matin même, j'avais reçu de lui une lettre où, après m'avoir affirmé son admiration, il avait, disait-il, des choses importantes à me dire. À ce message était jointe la reproduction d'un article du professeur Tatar, qui le connaissait comme un savant extraordinaire et me donnait donc toute garantie. Tu as cette lettre? Interrogeait Nono Manette. Oui, elle est dans mon sac. Marquita la trouva en effet. Elle était pliée en quatre. La danseuse l'attendit à son amie qui la déplia. Aussitôt, elle eut un cri de surprise. Mais c'est une feuille de papier blanc que tu me donnes, fit-elle. Comment une feuille de papier blanc? S'étonnait Marquita. Mais tiens, regarde. En effet, constatait la danseuse au comble de la stupéfaction, en voyant que les mots que Cagliostro avait tracés sur la feuille avaient entièrement disparu. Et l'article du professeur? S'écria-t-elle. Elle le prit dans l'enveloppe où elle l'avait laissé et constata qu'il n'y avait plus trace de caractère d'imprimerie. Oh, c'est trop fort! S'exclama la danseuse. Qu'est-ce que je te disais? Triomphait Nono. J'en suis sûr. Zerba t'aura payé ce Cagliostro que je prenais jusqu'ici pour un farceur, mais qui m'a tout l'air d'un immonde fripouille. J'ai pas besoin de t'en dire plus long. Tu m'as comprise. C'est abominable, soupirait la bohémienne blonde, avec un accent où il y avait plus que de la déception, c'est-à-dire du désespoir. Oh, tu vas pas recommencer à pleurer, ma gosse, déclarait la vedette du Moulin Rouge, car vraiment, il n'y a pas de quoi. Au fond, l'intervention de ce Zermatt est très heureuse, puisque cela t'a permis de constater que tu étais beaucoup moins attaché à Jacques que tu ne le pensais. Le mal dont tu souffres, vois-tu, ma chérie, est très guérissable. Tu as besoin avant tout d'une affection vraie, d'un amour aussi désintéressé que limpide. Il est là, prêt à frapper à la porte. Petite, tu vas me faire manquer à ma parole. Ne me dites rien de plus, exclamait Marquita. Ce soir, je n'ai pas la tête à moi. Demain, vous me parlerez, oui, demain. Je vais me déshabiller, scandait Nono Manette, car l'heure tourne et Corbert va encore nous péter parce que nous restons trop tard dans nos loges et que nous brûlons trop d'électricité. Je reviendrai te reprendre. Tu viendras souper chez moi. Ce soir, je suis seul. Nous pourrons bavarder tout à notre aise. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Nono, et merci encore. Mais tu m'ennuies avec tes remerciements. Et puis, tâche, quand je vais revenir, de me faire une autre cafetière. La vedette s'enfuit, laissant seule sa camarade. Celle-ci partit s'asseoir sur le siège qu'occupait tout à l'heure le comte Zermatt. Elle se sentait inquiète et mécontente d'elle-même. Un grand désarroi était en elle. Elle se trouvait dans l'incapacité de suivre une idée, car il y avait autant d'angoisse dans son cœur que de brouillard dans son cerveau. On frappait à la porte. C'était la mère tarte aux fraises qui, passant simplement la tête, demandait « Vous n'avez pas eu besoin de moi, mademoiselle ?»« Non, non, vous pouvez partir. » La vieille habilleuse miloda une excuse. « C'est que j'habite loin, vous savez, très loin, au fond de l'avenue de Saint-Mandé. Je voudrais pas rater mon métro. »« Mais oui, allez !» scandait la danseuse agacée. « Je vous remercie, mademoiselle. Il n'y a pas de quoi. Alors bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. » Demeurée seule, Marquita appuya son coude sur la tablette et se mit à réfléchir. Tout ce que lui avait dit Nono Manette avait produit sur elle une impression profonde. Elle était beaucoup trop intelligente pour ne pas comprendre que sa camarade avait entièrement raison et que ce Willy Zermatt, qui, suivant son habitude, avait réussi à l'éblouir, était un de ces hommes dangereux qu'il importait de fuir comme la peste. Et ce qui la bouleversait à un point qu'elle perdait tout contrôle d'elle-même, c'était cette phrase prononcée par Nono Nanette qui ne cessait de retentir à ses oreilles. Au fond, l'intervention de ce Zermatt a été très heureuse, puisqu'elle t'a permis de constater que tu étais beaucoup moins attaché à Jacques que tu ne le pensais. Et la jolie danseuse ne pouvait s'empêcher de reconnaître que, sur ce point, son amie avait encore raison. Cette constatation la plongeait dans l'épouvante d'elle-même. Ne pouvant se rendre compte que l'ascendant immédiat que le donjon des grands bars avait immédiatement conquis sur elle n'était dû qu'à la puissance magnétique qui appartenait à ce gredin et lui donnait la facilité de dominer à sa guise la femme sur laquelle il avait jeté son dévolu, elle s'effarait à la pensée qu'en quelques heures elle avait pu briser au cours d'une première rencontre la chaîne qui l'attachait à celui qu'elle croyait son premier amour. Et ne comprenant pas que ce prodige était indépendant de sa volonté, parce qu'après l'habile préparation de Cagliostro, elle avait eu l'impression d'être entièrement captivée par le séducteur professionnel qui était Willy, la malheureuse s'accusait sans pitié d'être une misérable. Et elle se disait: cet amour que j'avais cru si solide a fondu comme de la neige. Je suis donc une femme comme tant d'autres. Et elle se voyait, sombrant à son tour, dans toutes les faiblesses qui sont au début des dégradations inévitables, dégringolant chaque jour davantage, s'enlisant dans cette boue dont elle avait toujours eu une instinctive horreur. Elle en arrivait à regretter d'avoir rencontré Jacques Gervais sur sa route, d'avoir suivi ses conseils, d'avoir quitté ces bohémiens qui la rudoyaient et d'être venue dans ce Paris dont elle allait à son tour être la proie. Persuadée, dans le cruel et douloureux malentendu avec elle-même qui l'aveuglait, que désormais il lui serait impossible de faire sa vie ainsi qu'elle l'entendait, c'est-à-dire dans le rayonnement d'un seul et véritable amour, épuisée avec un tel dégoût d'elle-même, une si violente rancœur de tout qui vous fait taire les folies, elle saisit nerveusement dans son sac un petit revolver qu'elle emportait chaque soir au cas où elle serait attaquée en entrant chez elle. Et sans hésiter, elle appuya le canon contre son tempe. Puis elle pressa sur la détente. Le coup ne partit pas. Elle appuya à nouveau. Toujours rien. Elle allait récidiver lorsqu'une voix se leva derrière elle, teintée d'un léger accent d'américain. « Inutile de continuer, mademoiselle. Il n'y a plus de seule balle dans votre revolver. J'en suis sûr, puisque c'est moi qui les ai retirés. » Au comble de la stupéfaction, Marquita abandonna son arme qui retomba sur la table, se retourna, et elle aperçut, debout sur le seuil, un homme en habit d'une rare distinction, aux cheveux grisonnants, au regard à la fois profond et éveillé, et qui, le chapeau à la main, se présentait. « Sir Douglas Wilson, détective !» La danseuse, depuis que balbutiait, « Monsieur, je ne vous connais pas, et je me demande pourquoi vous êtes permis d'intervenir ainsi. » Douglas répliquait, « Parce que j'en avais le devoir, le droit. » « Mais à quel titre ?»« Je vais vous le dire, mademoiselle. Auparavant, laissez-moi vous prévenir que vous allez apprendre quelque chose de tout à fait extraordinaire. » « Je vous écoute, monsieur. » Avec une émotion que depuis qu'il était en présence de la jolie danseuse, il ne pouvait plus réprimer qu'avec peine, Douglas Wilson s'écriait « Je suis votre père. Vous ?» s'exclamait la bohémienne blonde. « Oui, je vais vous le prouver. » Voici d'abord le portrait de votre mère. » Il tira de la poche de son veston une charmante miniature qui représentait les traits d'une jeune femme de 25 ans. « Regardez » fit-il simplement. Un léger cri échappa à Marquita. Elle avait l'impression qu'elle se trouvait en face de sa propre image. « Cette miniature, » reprenait le détective, m'a beaucoup aidé à vous retrouver. Mais c'est inouï, murmurait la danseuse. Oh, je voudrais bien vous embrasser, reprenait Douglas, mais vous n'êtes pas encore convaincu que je dis la vérité. Et pour vous serrer dans mes bras, je veux que vous soyez entièrement sûr que je suis votre père. Et redevenant entièrement maître de lui, le détective américain poursuivait avec le flemme qui le caractérisait. Ayant lu dans les journaux le compte-rendu de vos débuts au Moulin Rouge, ainsi que toute l'histoire de votre existence qui l'accompagnait, puis ayant remarqué dans les portraits de vous qui ont été publiés en même temps qu'il existait une ressemblance extrêmement frappante entre la miniature de votre mère et ses portraits, je me rendis au Moulin Rouge. Je vous vis, et convaincu que j'avais devant moi ma fille, que, pour des raisons que vous connaîtrez un jour, j'avais été obligé de faire élever en France, je ne voulais pas être dupe d'une coïncidence telle qu'il s'en produit parfois dans la vie. Je voulus, avant de me manifester à vous, posséder toutes les preuves, toutes les garanties les plus absolues. Et je me mis à la recherche de la troupe de bohémiens dont vous avez été la proie. Ce fut pour moi un jeu de les repérer. Et cette fois, sans peine, je pus obtenir les aveux très nets de Tirschkauer. C'était lui, oui, lui, qui vous avait enlevé aux nourriciers sur lesquelles je vous avais placé. Vous étiez donc mon enfant. » Et Douglas ajouta, « Maintenant, je crois que nous pouvons nous embrasser. » Marquita, sans un mot, se jeta dans les bras de son père. Et l'étreinte dont on l'enserra lui prouva, mieux que tout, que non seulement elle croyait en lui, mais qu'elle était prête à lui accorder toute la tendresse dont elle était capable. Mais, la sentant chanceler d'émotion, il la fit asseoir sur sa chaise longue, et approchant d'un siège tout près d'elle, il saisit la main de sa fille qui le contemplait et lui souriait déjà dans ce retour à la vie qu'elle lui devait, dans cette résurrection d'elle-même qui venait d'un seul coup de chasser loin d'elle la mort dont elle a voulu faire sa libératrice. Et Douglas Wilson reprenait, « Je n'ai pas tout dit. Avant de me présenter à toi, j'ai voulu, sans doute par habitude professionnelle, faire une enquête sur toi. Je voulais savoir vraiment ce qu'était ma fille. Si tu avais pris le mauvais chemin, j'eusse fait tous mes efforts pour t'en retirer. Mais pour me présenter à toi, j'en aurais attendu le résultat. Il n'en a rien été, bien au contraire. J'ai su que tu étais restée la plus pure des femmes. J'ai appris également que tu te débattais dans une crise sentimentale, que tu aimais un homme marié, mais que ton honnêteté ainsi que la sienne vous séparaient pour toujours. J'ai connu ton désespoir, et sachant que tu emportais toujours avec toi un revolver, et grâce à la complicité de ta petite femme de chambre, j'en ai retiré les cartouches afin que, si tu étais tenté de te servir de ton arme contre toi-même, tu pourrais le faire sans danger. Mais ce n'est pas tout. Je suis aussi, car tu sais, je suis aussi bien doué que ce Cagliostro que tu es allé consulter hier, oui. Je suis que tu étais aimé par un garçon digne de toi. Et comme je ne suis pas engagé, ainsi que ton ami Nono Manette a de cacher son nom. Je vais te le dire tout de suite. Il s'appelle Jean Bonnier. Le musicien? Oui, ma chère enfant. Et si tu n'y vois pas d'inconvénient, il soupera ce soir avec nous. C'est cette grande et charmante artiste qui est ton amie et qui, tu dois t'en douter à présent, était pour moi la plus précieuse et la plus avisée des collaboratrices. » De nouveau, Marquita se précipita dans les bras de son père. Des larmes coulaient de ses yeux. Mais cette fois, c'était de joie qu'elle pleurait. Tout à coup, elle s'écria, « Et ma mère ?»« Ta mère ?» fit le détective. « Je suis désolé, ma chère enfant, de te causer en ce moment un gros chagrin, mais je ne dois pas te laisser ignorer qu'elle est morte depuis quelques semaines. Elle n'aura pas eu la joie de te connaître, de te retrouver, de te voir, si belle et si douce, et surtout si pure. Je te parlerai d'elle souvent, très souvent. Je te dirai toute la peine, que dis-je, tout le désespoir qu'elle a éprouvé lorsqu'elle a appris ta disparition. Jusqu'à son dernier jour, elle n'a cessé de souffrir de ton absence, de s'inquiéter de ton sort. Et la veille même où elle a expiré, elle a encore eu la force de me faire parvenir ces quelques lignes, car elle est morte loin de moi. Cherchez encore, cherchez toujours. Je vais prier là-haut pour votre réussite. Sans doute Dieu t'aura-t-il entendu, puisque j'ai pu te rejoindre enfin et acquérir en même temps la certitude si précieuse que non seulement tu es une grande artiste, aimée, fêtée, choyée du public, mais qu'à travers toutes les misères de ton existence d'enfant et de jeune fille, aussi bien qu'au milieu des tentations qui t'ont assaillie au cours de ton existence nouvelle, Tu es restée l'honnête femme par excellence. Voilà pourquoi, si tu es contente d'être en face de ton père, moi je suis heureux et fier de serrer ma fille dans mes bras.
Ce fut une double étreinte filiale et paternelle. Il sembla alors à Marquita qu'elle n'avait plus rien à redouter de l'existence, puisqu'elle avait à côté d'elle le meilleur défenseur qu'elle pût espérer, le conseiller le plus prévoyant et le plus sage qu'elle pût désirer. Et tout en songeant avec mélancolie qu'elle serait à tout jamais privée de cette mère qu'elle n'avait fait qu'entrevoir dans ses songes, elle se prenait promis de conserver toujours la pensée émue qu'évoquait en elle la jolie miniature qu'elle s'était mise à regarder avec la vénération qu'une croyante mère a à contempler une image sainte. Mais un coup discret, cette fois, heurtait la porte. Douglas ouvrit et, se retournant vers sa fille, il lui dit: Oh, voici votre amie, Nounou Annette, qui vient vous chercher. Marquita se précipita vers la grande vedette tout en disant: Venez que je vous embrasse, car vous avez été encore meilleure pour moi que je ne me l'imaginais. Nono Manette répliquait en riant: Eh bien, comment le trouves-tu, ton papa? Je crois que je ne pourrais pas en être rêvé un meilleur, déclara la danseuse. Nono Manette reprenait: Moi, oh, j'aurais été rudement contente d'en avoir un pareil. Soit dit entre parenthèses, si mon paternel était un brave homme, quand il avait bu un coup de trop, il était insupportable. Oh, je vous assure que ce n'était pas toujours drôle à la maison. Mais allez, ne pensons plus aux choses tristes. Chère mademoiselle, reprenait le détective, j'étais plus bavard que vous. Oh, ça m'étonne, s'écriait Nono Manette. Moi, je suis comme un phonographe. Chaque fois que l'on met un de mes disques en mouvement, il faut qu'il tourne jusqu'au bout. Pourtant, souriait le détective, vous avez su garder un secret mieux que moi. Non, c'est impossible. C'est cependant ainsi. La preuve, c'est que je n'ai pas pu m'empêcher de dire à Maquita qu'elle était aimée par Jean Bonnier. Eh bien, sursautait Nova Net, pour un détective tel que vous, vous avez fait du beau travail. Non, cher ami, protestait Maquita, car je m'aperçois maintenant que la route du vrai bonheur ne doit jamais se diriger vers l'impossible. Et que lorsqu'on se heurte à un obstacle infranchissable, et que l'on veut malgré tout le surmonter, on s'y brise tout entière et retombe morte sur la poussière du chemin. Et avec un adorable sourire, elle ajouta: Vous pouvez téléphoner à Jean Bouvier de venir souper avec nous. Nono Manette s'écriait: À la bonne heure, maintenant, tu ne pouvais pas dire une parole qui me ferait plus de plaisir. Et ce soir, je me propose de sabler le champagne à votre prochain mariage. Oh, n'allons pas si vite, déclarait Marquita. Avant de me marier, il faut que je sois sûr de mon cœur. Oh, sûr de ton cœur, répétait la grande vedette du Moulin Rouge. Moi, je te dis que tu l'es déjà. La preuve, c'est que tu avais renoncé à Jacques et que tu commençais déjà à te laisser embobiner par cette fripouille de Zermatt. Zermatt? Répéta le détective en pâlissant légèrement. Mais Marquita se récriait. Mais à ce moment, j'étais complètement folle, j'avais la tête perdue. Mais dès que tu m'as prévenu de ce qu'était ce personnage, j'ai tout de suite pris la résolution de ne plus le revoir. Donc, concluait Nono Manette, tu n'aimes plus personne. Tu es donc entièrement libre. Oui, c'est exact. Alors moi, je te parie tout ce que tu voudras, qu'avant 8 jours d'ici, notre ami Jean aura fait entièrement ta conquête. J'en accepte l'augure, dit la danseuse, car j'ai déjà pour lui une vive admiration et une grande amitié. Mais bravo, dit la grande vedette du Moulin Rouge en battant des mains. Nous sommes bons, car en auditionnant admiration avec amitié et en y ajoutant le facteur tendresse,
en format total qui s'appelle inévitablement l'amour. Et maintenant en route, comme on chante dans un opéra, oh, je ne sais plus lequel par exemple. Ah si, je crois que c'est dans Roméo et Juliette. Titre prédestiné. Pour les soins du souper, je vois qu'on vous réclame. Ils partirent tous les trois et s'installèrent dans l'auto de Monanette, qui habitait un très bel appartement, avenue de Villiers. Lorsqu'ils pénétrèrent dans le salon meublé et décoré avec beaucoup de goût, Jean Bonnier s'y trouvait déjà. Il était un peu pâle, un peu nerveux. On sentait qu'il attendait avec anxiété le retour de Nono. Lorsqu'il la vit apparaître avec Marquita, son visage s'éclaira aussitôt d'une joie infinie. Après avoir salué les deux femmes, il s'enfuit vers le détective qui lui tendit cordialement la main qu'il serra avec effusion. Alors, se penchant vers son oreille, le père de Marquita dit au jeune compositeur « Je n'espère encore vous dire que je vous accorde la main de ma fille, mais ne vous tourmentez pas. Nous autres Américains, nous avons l'habitude d'aller vite, très vite, et je crois que Marquita a trop de bon sang dans les veines pour ne pas agir autrement. » Un maître d'hôtel apparaissait et annonça « Madame est servie !» Tous les quatre passèrent dans une salle à manger où la maîtresse de la maison recevait ses intimes et dont la grâce un peu exiguë rappelait par son style du plus pur Louis XVI l'une des pièces des petits appartements de Versailles. Ils s'installèrent autour d'une table au linge d'une blancheur éblouissante, au verre en cristal étincelant sous la lumière et à l'argenterie d'une authenticité incontestable. Comme toujours, la chair était délicate et soignée. Bientôt, dans cette atmosphère de luxe et de bien-être, l'apaisement définitif se fit dans l'âme de Marquita. Tour à tour, son regard s'en allait vers son père, qui lui paraissait un homme si distingué et en même temps si franc, si loyal, si supérieur, qu'il achevait de conquérir son affection et sa confiance, et sur Jean Bonnier, qui, avec un tact parfait et une discrétion remarquable, évitait de fixer trop longtemps ses yeux sur les siens lorsqu'ils se rencontraient. Mais ce qui la séduisait de plus en plus, c'était toutes ses qualités de simplicité, d'élan, de bonne humeur, qu'elle n'avait pas encore observées en lui, et qui maintenant provoquaient en elle de jolies espérances. Ce n'était pas encore l'amour, le grand amour, qui vous prend, qui vous enseigne, et qui vous enserre dans une étreinte dont il semble que l'on ne puisse jamais échapper. Non, c'était un sentiment beaucoup plus doux, beaucoup plus pénétrant, quelque chose comme une caresse morale qui frôlait son âme et la préparait à accueillir, dans la prochaine réciprocité d'une tendresse partagée, celui qu'elle aurait le droit d'appeler vraiment l'homme de sa vie. Contrairement à ce qu'elle avait annoncé, l'exubérante Nono Manette ne parla pas de toast à la santé des fiancés. Elle aussi était gagnée, dominée par le charme indéfinissable qui se dégageait de ce souper charmant. Et lorsque Marquita fut partie avec son père, la grande vedette assura donc au jeune musicien « Mon petit, vous avez gagné la partie. Et sur ce chapitre-là, je m'y entends. » Douglas Wilson avait reconduit Marquita jusque chez elle. Bien que l'heure fût très tardive, la jeune danseuse voulut que son père connût le home, d'ailleurs charmant, où elle avait vécu des heures si cruelles et où maintenant elle allait connaître enfin le bonheur. « Demain, lui déclara le détective, nous allons apparaître longuement. Mais pourquoi pas tout de suite ?» fit la danseuse. Douglas répliquait « « Parce que je crains que tu ne sois fatigué. » Marquita répliquait « Oh non, la joie indicible que j'ai ressentie en vous retrouvant m'a en quelque sorte galvanisé et croyez qu'il m'en coûterait vraiment jusqu'à demain pour vous écouter. » « Alors, s'écriait le célèbre limier américain, je n'hésite plus, car tu es à même de me rendre un grand service. » Vous m'en voyez infiniment heureuse, de plus en plus content de se trouver tout de suite en parfaite harmonie de caractère et d'idées avec sa fille. Il reprenait. Rendez-vous, voici. Mais avant tout, laisse-moi te demander de garder rigoureusement pour toi toute seule tout ce que je vais te raconter et te demander, je vous le promets. Le détective reprenait d'un ton ferme et tranquille. Nono Manette t'a rendu un grand service en te mettant en garde contre les menaces de ce soi-disant Konzermatt, qui, ainsi que tu en auras bientôt la preuve, est un abominable aventurier. Mais ce qu'elle n'a pas pu te dire, parce qu'elle ne le sait pas, c'est que le sinistre individu, après avoir dépouillé sa première femme à l'aide de manœuvres frauduleuses basées sur un chantage éhonté, était décidé à assassiner sa seconde épouse afin de s'emparer des 60 millions qu'elle lui aurait laissés. Voilà l'homme. Quelle horreur ! S'écriait Marquita. Maintenant, reprenait son père, je voudrais que tu me dises comment tu as connu le bandit. Oh, c'est bien simple. Vous avez entendu parler de ce mage Cagliostro. Oui ? Un matin, j'ai reçu une lettre fort aimable de lui, me priant de lui rendre visite, sous prétexte qu'il avait d'importantes communications à me faire. Il avait joint à sa lettre un article très élogieux sur son compte et signé par un membre de l'Académie de médecine. À ce moment, j'étais dans un tel état d'esprit que je n'ai pas hésité à courir à son appel. Il m'a fort bien reçu, m'a vivement conseillé de renoncer à Jacques Hervé et m'a déclaré que j'étais aimé par un jeune homme de très haute naissance, très riche et qui désirait m'épouser. Il m'a instamment prié de le recevoir. Le soir même, le Konzermatt se présentait dans ma loge. Je ne vous cacherai pas qu'il me plut beaucoup. Il était dehors si brillant. Je le sais. Et puis, il se montra d'une correction absolue, m'affirmant qu'il voulait se marier avec moi. Et il ajouta même qu'il avait l'intention de me faire construire un théâtre. Ne m'en dis pas davantage, je suis fixé. Ce soi-disant Konzermatt s'appelle en réalité Robert Villard. Il est le fils d'un ancien bagnard, Jean Villard. Et c'est ce dernier qui, sous les apparences de ce mage Cagliostro, a voulu te jeter dans les bras de son fils. Dans quel but, je l'ignore, mais je ne tarderai pas à le savoir. L'essentiel est que je sois arrivé à temps pour empêcher le nouveau crime que ces deux misérables s'apprêtaient à commettre et que, grâce à la collaboration de cet excellent Nodou, j'ai pu déjouer leur entreprise. Effrayé, Marquita s'écriait. « Alors, vous croyez qu'il a assassiné sa seconde femme ?»« Non, non, rassure-toi, cette malheureuse est vivante. J'ai pu me mettre en travers du hideux projet que le père et le fils, entièrement d'accord, se préparaient à exécuter. Leur victime est aujourd'hui à l'abri de leur coup. Et maintenant que je l'ai retrouvée, maintenant... que je puis agir en toute liberté morale et sans crainte d'un retour offensif de la part de ces gredins. Je vais m'occuper de leur châtiment. Mais en attendant, garde un silence absolu sur tout ce que je viens de te dire. » Marquita, vivement impressionnée par le récit de son père, s'écriait. « Vous pouvez être absolument rassurée, je me tairai. » Et si je puis vous aider dans l'œuvre que vous allez entreprendre ? Peut-être, fit le détective d'un ton mystérieux. Allez, maintenant je vais te dire bonsoir. Quand vous reverrai-je ? Interrogeait la danseuse. Douglas réfléchit un instant, puis il déclara : Dès demain, il n'y a aucune espèce de raison pour nous cacher. Il sera même très bon que les vieillards apprennent que le secret de ta naissance est connu. Car à présent, j'en suis sûr, c'est de ce secret-là qu'il voulait parler. Et le fait que je t'ai retrouvé va certainement provoquer de leur part une offensive à mon égard qui ne peut que favoriser le plan que j'ai conçu. Allez, je viendrai te chercher demain matin vers midi. Nous déjeunerons ensemble. Au revoir, ma chère enfant. Le détective allait embrasser sa fille, mais celle-ci lui demandait: Encore un mot, père. Parle. Y a-t-il longtemps que vous avez perdu ma pauvre mère? Oh, très longtemps, crut pouvoir déclarer Douglas. Vous avez dû être bien seul dans la vie. Très seul, en effet, jusqu'au jour où il y a de cela quelques mois seulement. Désespérant de te revoir, je me suis refait un foyer. Ce n'est pas à moi de te vanter les qualités de celle qui, après avoir été une collaboratrice remarquable, est devenue ma compagne. Tu la jugeras toi-même. Sache seulement que ce n'est pas une belle-mère que tu vas rencontrer chez moi, mais une grande sœur qui t'aime déjà. Et que moi, affirmait Marquita, je suis prête à aimer. Le père et la fille échangèrent un long baiser, puis ils se séparèrent, gardant de l'un de l'autre une ineffaçable impression de tendresse qui ne demandait qu'à s'épanouir. Le lendemain matin, de très bonne heure, le valet de chambre de Willis et Hermat réveillait celui-ci en disant: Que monsieur le comte m'excuse, mais le révérend père Ardennais est là, qui demande à parler tout de suite à monsieur le comte. Allons bon, se dit le don Juan des grands bars, qu'est-ce qui va pu arriver pour que mon père ait repris sa défroque de missionnaire? Et il donna l'ordre de l'introduire immédiatement dans sa présence. Malgré le camouflage extraordinaire sous lequel disparaissait sa véritable physionomie, l'ex-bagnard ne pouvait dissimuler l'émotion qui l'agitait. Son regard, tout de colère concentrée, frappa aussitôt Willy, qui ne put s'empêcher de s'écrier: Oh, ça, qu'est-ce qu'il y a donc? De la casse? Tout! Laissa échapper le forban, et d'un ton âpre, il martela: Douglas Wilson est de nouveau déchaîné contre nous. Je vous l'avais déjà dit. Mais ce que tu n'avais pas prévu, ni moi non plus d'ailleurs, c'est que Marquita est sa fille. Et qu'hier soir, après avoir été la chercher au Moulin Rouge, il est allé souper avec elle et un jeune musicien nommé Jean Bonnier, chez Nono Manette, qu'il a réussi à attirer dans son jeu. Mais comment avez-vous appris cela? Par la femme de chambre de Lucienne que j'avais achetée. Heureusement, sans quoi c'était le désastre. Oh, le fait est, grommelait Zermatt, que c'est très embêtant. Mais vous avez de quoi lui répondre. Les lettres de Madame Smith. Ah, tu crois cela? Eh bien, je ne peux plus m'en servir. Pourquoi? Ben, si au lieu de flemmarder dans ton lit, tu te levais un peu plus tôt, tu aurais lu comme moi dans les journaux qu'avant-hier, Madame Smith, l'ex-maîtresse de Douglas Wilson et la mère de Marquita, avait péri avec son honorable mari, M. Smith, ministre des Inventions aux États-Unis, dans un accident de chemin de fer qui a eu lieu entre Washington et New York. Oh, vraiment, nous jouons de malheur! S'écriait le bel âtre. Mais il y a mieux encore. Gisèle, que nous croyions noyée, est vivante. Elle est entre les mains de ce maudit détective, qui à présent qu'il n'a plus à redouter que celui que sa correspondance avec Madame Smith va entamer contre nous une lutte sans merci. Oh, c'est effrayant. Tu as peur? Non, mais. Si, tu as peur. Bien, tu dois savoir que je n'aime pas les trembleurs. C'est pourquoi, si je m'aperçois que tu flanches, gare à toi. Et avec un accent d'énergie farouche, l'ancien forçat scanda. Mais au lieu de nous enfuir, comme tu es disposé à le faire, j'ai décidé que nous accepterions la lutte. Si Douglas Wilson a pas mal de tours dans son sac, j'en ai encore plus que lui dans le mien. C'est un combat suprême qui se lève entre lui et moi, mais si tu m'obéis aveuglément, d'ici peu je serai vainqueur. C'est au duel défensif, au duel à mort entre le bandit et le détective, que nous allons faire assister nos lecteurs et nos lectrices au cours de notre prochain récit, Martyr de l'amour, vengez-vous, et qui sera le dernier de la série des volumes que nous avons consacrés à dépeindre ce que l'on peut appeler les hauts fonds de Paris.